Valerio Vincenzo, bonsoir. Merci à vous d'être venu pour cette troisième édition du cycle Profession Reporter, où nous interrogeons donc les évolutions des métiers de l'information. Donc Valerio, vous êtes photographe.
Bonsoir.
Vous travaillez pour la presse, mais vous faites également des expositions, donc et des livres et des commandes aussi. Vous travaillez pour la presse vous exposez également et vous faites des livres. Qu'est-ce que ça implique comme différentes façons de travailler, par exemple dans la sélection des sujets ?
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je conçois un sujet ou un reportage, je pense tout de suite combien de différents supports je peux le déployer. Est-ce que ce travail, je peux le proposer que à la presse ? Est-ce que je peux faire une exposition après ? Est-ce que ça peut devenir un livre ou pas ? Et donc l'intérêt, en fait, j'essaie de me concentrer sur des projets que je peux déployer sur plusieurs supports, parce que ça rallonge la durée de vie d'un projet. Et donc ça les rend plus intéressants et je peux passer plus de temps. Mais il est vrai aussi que je peux, si je sais qu'un projet peut intéresser la presse, je peux m'intéresser en sachant que je ne ferai jamais une exposition, que je ne publierai jamais sur mon compte Facebook, que je ne vais jamais en faire un livre. Moi, ce que je pense, ce qui est important dans mon métier, c'est d'avoir une espèce de portefeuille de projets. Il y a des projets à très court terme. Je prends une photo aujourd'hui et elle est publiée demain dans un journal, mais après-demain, elle est morte, en fait. Des projets de moyen terme, j'ai fait un projet sur plusieurs mois ou semaines, pour un mensuel, par exemple, et je peux peut-être, après, en faire une petite exposition ou pas. Et après, des projets de long terme, je peux passer plusieurs années sur un même sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui n'intéresse pas que la France, par exemple, qui peut intéresser pas qu'un certain type de magazine, mais des types de magazines différents, que je peux exposer à plusieurs reprises dans plusieurs pays, par exemple, et dont à la fin, je peux en faire un livre. L'important, à mon avis, c'est d'avoir plusieurs types de projets différents, parce que notre métier aujourd'hui est tellement instable qu'on ne peut pas se concentrer seulement sur une seule activité, en fait. Donc, il faut diversifier un peu son activité en termes de sujets, mais aussi en termes de timing, des revenus aussi. Donc, il faut des choses à très court terme, des choses à moyen terme, des choses à long terme. Et en mettant tout ça ensemble, on arrive en fait à survivre, parce que c'est pas difficile d'être photojournaliste aujourd'hui, je trouve. Ce qui est très difficile, c'est de rester photojournaliste. Après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, il faut mettre les bases pour pouvoir rester dans la durée. C'est ça qui est le plus difficile, en fait.
Et oui, justement, en parlant de base, quelles sont d'habitude les formations, en fait, des photojournalistes ? Quelle est, toi, ta formation ?
Oui, tu m'as envoyé cette question par email. Et mon premier réflexe, c'est aller voir sur Internet quelles étaient les formations pour les photojournalistes, parce que je ne les connais pas, en fait. Et après, je dis, mais non, je ne dois pas aller voir, parce que tout le monde peut faire ça. En fait, à mon avis, en fait, si tu me le demandes, il n'y a pas une règle à suivre, il n'y a pas une voie à suivre pour entrer dans un moule, en fait. On peut être photojournaliste en arrivant d'horizons très différents et variés. Et on peut aussi faire des écoles de photographie, on peut faire des écoles de photojournalisme, mais ça n'assure pas le fait de pouvoir devenir photojournaliste. Et il n'y a pas, en fait, des règles. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment changé dans les temps. Aujourd'hui, il y a plus d'écoles de photographie, mais même par le passé, on pouvait arriver par des horizons très différents. Moi, j'ai un diplôme de commerce, ça n'a rien à voir. Je connais plein de photographes qui ont été géographes, philosophes. Il y a vraiment sociologues, il y a vraiment de tout. Après, moi, personnellement, pour accélérer, en fait, mon départ au début, j'ai fait une formation courte dans une école de journalisme qui s'appelle EMI, c'est l'école des métiers de l'information. Et c'est une école de 3 mois, en fait, avec un stage d'un mois. Et c'est une école qui ne t'enseigne pas vraiment à prendre des belles photos, mais qui te donne les outils pour concevoir un reportage, contacter la presse. Il suffit de savoir, il suffit de prendre le téléphone et appeler un magazine, et en général on arrive à décrocher un rendez-vous même si on a commencé hier à être photojournaliste. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas. Je venais d'un monde dans lequel il fallait avoir un CV et il fallait l'envoyer, attendre la réponse, alors qu'encore aujourd'hui on peut juste appeler quelqu'un et avoir, si on arrive à argumenter plutôt bien ce qu'on veut montrer, on peut avoir des rendez-vous sans avoir un CV, ce qui est extraordinaire, je trouve. C'est une espèce de liberté. Il y a des opportunités un peu plus vastes. Avec cette courte formation et puis un stage au Nouvel Observateur, j'ai commencé à faire des photos tout de suite. Donc avoir des petites parutions de restaurants pour la page style, des choses vraiment basiques, mais qui sont une énorme formation en fait. Parce qu'il faut toujours arriver avec une photo, même dans les endroits les plus pourris en fait, de la ville. Et ça, c'est très important en fait. Je pense que la formation technique que j'ai eue, c'était commencer au début avec des magazines et des journaux pas très connus qui m'ont permis de me planter sans avoir des répercussions graves en fait, sur mon parcours, parce que bon, personne ne connaît ces magazines, donc ce n'est pas grave. Si je me plantais dans un portrait, ce n'est pas grave.
Et est-ce que dans les titres de presse, est-ce que les photographes sont souvent attachés, enfin, est-ce que par exemple toi tu travailles toujours un peu avec les mêmes titres de presse, ou est-ce que enfin c'est plus courant de changer, de tout le temps changer en fait de titres de presse selon le sujet, selon
Mais là aussi il n'y a pas vraiment des règles en fait. Et je connais pas de photographes qui travaillent de la même manière. On peut avoir de la chance et commencer à installer une relation avec une rédaction, et donc commencer à collaborer régulièrement. On peut vraiment travailler avec plusieurs supports. C'est toujours bien en fait d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 magazines avec lesquels on collabore régulièrement, parce que régulièrement, pour un photographe, ça peut vouloir dire deux fois par an. Donc, il faut en avoir des magazines en fait avec lesquels on collabore. Moi, j'ai commencé à avoir. J'ai eu de la chance en fait, parce qu'en sortant du Nouvel Observateur, j'ai commencé à travailler régulièrement pour le Nouvel Observateur. Et bon, c'est toujours plus simple quand on va voir un autre magazine, avoir déjà des photos publiées. Ça aide. Mais il y a des magazines avec lesquels j'ai juste publié un reportage que j'ai plus avec lequel j'ai plus travaillé, parce que je continue pas à les démarcher, parce que ça m'intéressait pas en fait de continuer, ou bien parce que simplement il y a tellement de photographes qui proposent, il faut aussi que les autres travaillent aussi. Donc c'est vraiment très très varié. C'est ce qui est difficile en fait, c'est que on est très seul dans ces métiers. Les photographes n'a pas une place dans une rédaction aujourd'hui. Il est toujours en externe, et il a son contact en fait, c'est souvent les responsables photo. Les responsables photo, c'est le maillon faible d'une rédaction, parce que souvent c'est une personne qui est en minorité par rapport au chef de rubrique, au chef de rédaction, à des personnes qui travaillent pour les textes. Donc dans les réunions auxquelles les photographes ne participent jamais, les responsables photo doivent défendre seul par rapport à toute une autre équipe texte une idée en image, donc un projet photographique ou bien des photos qui ont déjà été réalisées. Donc nous on est encore plus affaiblis, parce que déjà c'est difficile d'établir une relation de confiance avec cette personne, et en plus cette personne elle n'a pas tout le temps la force pour proposer ça, et du coup c'est important d'essayer en fait plusieurs pistes. Mon professeur de photojournalisme qui s'appelle Wilfried Esteve m'a appris beaucoup de choses, parce que lui il arrivait dans une rédaction avec 15 propositions de reportage, pas une ou deux, mais 15, parce que statistiquement j'aurais plus de chance, et ça marche en fait. Moi j'arrive jamais plus à penser à une chose à la fois, donc j'arrive toujours avec une idée, et ça marche moins souvent, mais j'ai une façon différente de travailler aussi. Donc là aussi il n'y a pas de règles, mais on peut faire tout et le contraire de tout, et dans certains cas ça peut marcher, ou dans d'autres ça ne marche pas. Moi, c'est, en fait, peut-être c'est la chose qui me passionne le plus dans ces métiers, c'est qu'il n'y a vraiment pas de règles. Et donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je peux être là avec vous et peut-être j'ai reçu un email pour faire une photo à 10h du soir, ou bien pendant une semaine, personne ne m'écrit. Donc, c'est vraiment, tout est inventé au jour le jour, à la semaine. C'est très déstabilisant au début. Mais en fait, quand on se prend en jeu, on se rend compte que c'est une énorme liberté parce que ça permet de, si on arrive à se concentrer dans les moments où il y a moins de travail, si on arrive à réfléchir au projet qu'on appelle personnel, en fait, et à se concentrer sur ça, ce métier nous donne une variété d'approches qui est vraiment époustouflante, en fait. Il faut changer de cerveau tellement de fois dans le cours d'une semaine, c'est dingue, en fait, c'est dingue. Pour vous donner une idée, ma journée aujourd'hui, j'étais ce matin à faire des photos dans un appartement pour une copine architecte d'intérieur, donc rien à voir avec le photojournalisme, et c'est des photos que j'aime pas particulièrement faire, mais bon, c'était une copine, donc je l'ai fait. En début d'après-midi, j'ai eu rendez-vous avec mon comptable. La partie administrative est une partie énorme dans la vie d'un photographe. À 4 heures, j'étais au Conseil constitutionnel pour faire le portrait de Laurent Fabius. Et là, maintenant, ce soir, je suis avec vous. Donc, j'ai dû charger le cerveau 4 fois dans une journée. Et c'est extraordinaire, en fait. C'est ça qui est peut-être qui fait que je suis encore là et que j'ai envie d'en parler.
Oui, donc en fait, toi, tu dis que tu utilises les différentes fonctions de la photographie, de l'image, comme l'illustration, par exemple, quand tu prends des photos d'architecture d'intérieur. Mais tu as également des projets comme le projet Borderline, ou alors tu t'es déplacé un peu partout en Europe pour prendre des photos, des frontières, qui a un projet à long cours, très personnel, qui confine quasiment à la recherche, en fait, à la recherche personnelle et à la recherche en sciences humaines sur la notion de frontière, etc.
Oui, alors j'ai beaucoup à dire sur ça, hein, ça va durer longtemps. Là, j'ai commencé ces projets en 2007, en fait, et aujourd'hui on est en 2016 et je ne l'ai pas encore terminé. Donc, pour vous dire combien ça peut prendre, en fait, combien de temps peut prendre un projet. Et je l'ai commencé avec un premier voyage que j'ai fait sur mes frais, donc je suis parti tout seul, le long d'une frontière, de la frontière orientale de la France, de Bredune, France-Belgique, jusqu'à Menton, France-Italie. Et j'ai réalisé des photos de la frontière. Je vous montre parce que c'est horrible de parler d'images sans montrer des images. Des photos dans lesquelles je montre... Pardon. Voilà, je montre dans chaque image, il y a deux pays, en fait. Et donc... Je montre la ligne des frontières entre les deux pays. Et souvent, en fait, il y a quelque chose, mais en fait, très souvent, il n'y a rien. Donc là, cette frontière-là, c'est la frontière entre la France et l'Allemagne. C'est une zone très disputée, en fait, dans l'histoire de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est juste un point, en fait, où on ne sait pas, en fait, où c'est la France ou c'est l'Allemagne. Donc, c'est avec ces quelques photos, mais vraiment avec ces photos-là, hein, j'en avais 7 ou 8, en fait. Ça, c'est la frontière entre la France et la Suisse. Tout ce qui reste de la frontière, c'est les points jaunes que vous voyez par terre. C'est la seule chose qui montre qu'on passe d'un pays à l'autre. Avec ces photos-là, et quelques-unes de plus, je suis allé voir les magazines Géo en 2008 et je leur ai dit, regardez, je suis photographe, je viens de commencer un projet sur les frontières. Et l'actualité, donc il faut toujours... intéresser les magazines en leur parlant de l'actualité. L'actualité, c'est que dans quelques mois, la Suisse rentrera dans les accords de Schengen. Donc, je vous propose, on va faire le tour de la Suisse. Vous me financez le tour de la Suisse pendant 3 semaines. Je vais prendre des photos exactement comme celle-là. Et voilà, comme ça, vous pouvez après broder votre article sur ça. Et en fait, ça a marché. Donc, j'ai eu ma première commande importante pour un magazine. Et donc, parce que 3 semaines, ça coûte cher. Et puis, bon, c'est une responsabilité. Il faut ramener pas une bonne photo, mais plusieurs bonnes photos pour illustrer un article de 14 pages. Et donc, avec ces travaux, j'ai fait un deuxième voyage. Avec ces photos-là, j'ai commencé à faire une petite exposition, après une autre. Et une fois qu'on a une exposition, en fait, on peut louer la deuxième. Donc, une fois qu'on produit la première exposition, on loue la deuxième. Ça fait des rentrées d'argent. Avec ces rentrées d'argent, j'ai financé un troisième voyage, puis un quatrième. Et un cinquième, et puis maintenant, j'en ai fait des dizaines, en fait. Et au fur et à mesure, j'avais plus d'images sur ce projet. Et puis, j'ai eu la chance, qui est importante aussi dans ce métier, en 2012, il y a une autre actualité, l'Europe a gagné le Nobel de la paix. Donc, ces projets étaient publiés dans une quinzaine de pays, en fait, au monde, en forme de portfolio. Et avec toutes ces publications, je n'ai pas arrêté, en fait. Le sujet m'intéresse, donc j'ai continué à prendre des photos. J'ai réinvesti la plupart de ces recettes dans les voyages successifs. Et donc, j'ai agrandi les projets à un niveau tel que j'ai pu commencer à faire des expositions en plein air. Donc, avoir 50 images à montrer et plus 15. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pu construire un projet sur le très long terme. Mais je n'aurais jamais pu faire que ça depuis 2007 parce que les revenus sont très incertains. Aujourd'hui, ce projet est très publié à cause des... grâce. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais de la situation des migrants. Donc, on remet en question l'espace Schengen et donc ce projet est redevenu d'actualité. Mais en fait, j'utilise, on parle d'actualité avec des photos que j'ai prises en 2007, en fait, ou 2008 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, la notion d'actualité, pour moi, est très objective et j'aurais des choses à dire sur ça. Alors que quand on vend un projet, un reportage à un magazine, il faut vraiment être beaucoup plus dans le présent. Donc, il ne faut pas leur parler difficile avec des concepts. Je ne vais pas faire un reportage sur le concept des frontières. Ils m'auraient dit non, ce sujet n'a pas un angle. Il faut toujours angler un sujet. Alors que, la Suisse en 2008 rentre dans Schengen, quelle est devenue la Suisse aujourd'hui ? Il y a un angle journalistique. Donc je me sers de ces angles journalistiques pour construire après un projet qui est loin en fait, du journalisme pur. En fait. Donc, et alors, j'ai eu de la chance parce que au-delà de ça, ce sujet m'intéresse. Je développe tout un discours sur l'inutilité des murs aujourd'hui. Il est important d'avoir des frontières. Et Jacques Debray dit que dire qu'une frontière est une passoire, c'est lui rendre son dû. Parce qu'en fait, une frontière est là pour être une passoire. Une frontière est là pour filtrer, en fait. Mais elle n'est pas là pour empêcher les passages. Et aujourd'hui, on associe trop souvent les mots mur, homo frontière, barbelé et tout ça, alors que la frontière est autre chose aussi. Donc j'essaie de donner une autre iconographie et tout en étant en fait un équilibre entre le journalisme, les photographies d'art, si on veut les appeler, la photographie documentaire. C'est tout un mélange qui fait que ces projets ont réussi presque indépendant de moi en fait à rester un équilibre sur tout ça. Et du coup, à les décliner sous plusieurs formes, avec plusieurs publications, plusieurs expositions, et si tout va bien, un livre à la fin. Et après, on m'a laissé un billet parce que je dois dire que ce projet est exposé à Vincennes à partir du 20 avril, place Pierre-Sémard, jusqu'au 16 mai. C'est en plein air, donc vous pouvez aller le voir.
Tu as fait plusieurs expositions en plein air. Enfin, ouais. Je sais que c'est pas donné, je pense, à tous les photographes. Du coup, c'est quand même assez formidable de pouvoir faire en sorte que ton œuvre soit visible d'autant de gens qui passent comme ça par hasard. Enfin, comment tu conçois ça, justement ?
Alors, l'exposition en plein air, c'était un... Il faut avoir de l'ambition, en fait, pour faire une exposition en plein air. Et moi, j'ai commencé en faisant une faute, en fait. Et j'ai eu trop d'ambition. Et ma faute, finalement, après, avec le temps, s'est révélée une bonne chose. Parce que j'ai postulé pour exposer ces projets sur les grilles du Jardin de Luxembourg. Les grilles du Jardin de Luxembourg sont gérées par le Sénat. Donc, il faut faire une demande au Sénat. Avec 2 ans d'avance, qui valide ou pas. Et la difficulté pour cette exposition, c'est que c'est une exposition sur les grilles du Jardin Luxembourg coûte 100 000 euros pour quelqu'un qui vient du monde du photojournalisme, c'est un montant incroyable, en fait. Parce qu'on travaille avec d'autres montants. Donc, il faut trouver 5 000 euros, donc des sponsors.
C'est toi qui finance cette exposition ?
Non, c'est le photographe qui doit trouver les sponsors, en fait, pour faire l'exposition. Et donc, il faut trouver des mécènes. Et lors du dépôt du dossier des candidatures, il faut avoir trouvé au moins la moitié ou 60% de cette somme. Donc, il faut trouver 50 ou 60 000 euros. Ce n'est pas évident, en fait. Et donc, pendant des mois, en fait, j'ai arrêté de prendre des photos et je me suis investi à fond dans ça. Je n'ai pas trouvé 5 000 euros, mais j'en ai trouvé 30. C'est énorme. Donc, je n'ai pas eu l'exposition au Journal de Luxembourg, mais cet argent m'a permis de faire d'autres expositions dans des lieux moins prestigieux. Mais quand même, 30 000 euros, on peut faire beaucoup de choses avec cet argent. Donc, ça m'a permis de commencer à faire des expositions en plein air. Donc, je me suis planté sur l'exposition au Journal de Luxembourg, mais j'ai réussi à l'exposer ailleurs, en fait.
Alors, on va peut-être passer en fait à la sélection d'ouvrages donc, qui viennent du fond de la BPI. Voilà, on t'a demandé quels étaient des ouvrages qui t'avaient inspiré, qui sont importants pour toi dans ton parcours de photographe. Donc, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots.
Oui, alors, ça, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. C'est un photographe russe qui s'appelle Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorski, imprononçable. Et c'est un photographe qui a pris des photos époustouflantes, à mon avis, parce qu'il il a pris ses photos aux alentours de 1910. En fait, ce photographe, il avait inventé une technique de reproduction des couleurs qui était parfaite, en fait. Et donc, il a été commandité par les tsars pour sillonner la Russie et attendez, il faut que je trouve les photos qui m'ont marqué et prendre avec ces techniques des photos. Le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens pour les imprimer, on pouvait seulement les projeter. Du coup, ce photographe, il est resté un peu inconnu. Mais ce qui me fascine, en fait, dans ce travail, c'est que pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai vu le passé avec les couleurs d'aujourd'hui. En général, quand on regarde les passés, on les voit toujours derrière la patine des moyens et les limites des moyens techniques de l'époque. On voit ça avec ou des photos coloriées à la main ou du noir et blanc. Mais en fait, le passé n'est pas un noir et blanc. Le passé était en couleur comme aujourd'hui. Et du coup, ça m'a enlevé ces filtres en fait faux que j'avais dans mon cerveau. Et ça m'a permis de voir cette époque avec des couleurs neutres, en fait, mais c'est assez réaliste. Alors aujourd'hui, ce type de travail est très important parce qu'il y a une très forte tendance à travailler les couleurs en photographie. On a Photoshop, on a tout un tas de logiciels qui nous permettent d'altérer les couleurs, d'augmenter la saturation, de faire tout un tas de choses qui rendent les photos très, très attractives à l'œil et qui frappent, en fait, rapidement. Mais c'est des couleurs qui sont loin des couleurs que notre œil peut regarder, en fait. Et alors, moi, ce travail-là m'a fait comprendre que dans mon travail, il ne faut pas trop céder à cette tentation, parce que sinon, nos photos vont être datées, en fait. Ça sera les photos avec les moyens de l'époque. Donc, dans 50 ans, on dira, oui, c'est en 2016, on faisait les photos avec ça, c'est drôle, mais bon, ils s'amusaient à faire ça. Alors que si on veut rester, en fait, il n'y a rien de plus simple que de rester honnête, en fait, même avec ce que nous donne l'appareil photo. C'est pas la peine. Pour moi, c'est pas du tricher, mais c'est une forme de... on n'est pas sûr, non ? Et donc, on a envie d'améliorer au maximum l'image. Mais en réalité, si l'image est bonne, il n'y a pas besoin de l'améliorer. Et les couleurs peuvent rester comme ça. Ce n'est pas grave, parce que dans 50 ans, ça sera toujours comme ça. On ne verra pas le monde différemment. Notre œil, je pense, peut-être que je me trompe, mais il ne va pas changer. Et notre cerveau va voir les couleurs de la même façon. Donc, j'ai beaucoup appris de ces livres. J'aime beaucoup son travail. C'est une commande des rêves pendant des années. Il a sillonné la Russie. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce type de commandes, outre son travail. Après, j'avais. On ne peut pas ne pas parler de Cartier-Bresson. Donc, ça, c'est son livre Les Européens. En fait, vous avez une très belle édition de ces livres parce que c'est une édition assez rare. Moi, j'ai pensé à une autre édition plus récente qui a une photo qui a été le début de mon projet sur les frontières. Cette photo montre un poste de douane à Bayeul, entre la France et la Belgique. Et elle n'est pas dans cette édition, mais quand j'ai vu cette photo, ça m'a donné envie de retrouver le poste de douane. Et en 2007, lors de mon premier voyage, j'ai retrouvé le même poste de douane. Bon, vous n'avez pas la photo d'origine de Cartier-Bresson, mais le poste de douane est toujours là, abandonné. Donc, une seule photo dans un livre peut donner une idée pour un projet de 7 ans. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je parle de ces livres. Et là, toujours pour le thème des frontières, les inspirations d'un photographe sont seulement une petite partie des photos, en fait. Tout peut nous inspirer. Un film, un écrivain, une recherche scientifique, tout peut vraiment être matière pour nous. J'ai découvert ces livres, Le Monde d'hier. Zweig, c'est un livre, à mon avis, ça devrait être un livre d'école, tout le monde devrait le lire. Zweig raconte en fait comment le monde a changé entre la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très, très touchant. Et j'ai découvert dans ces livres, par exemple, qu'avant 1914, il n'y avait pas de passeport. Les gens pouvaient circuler librement et il ne fallait pas remplir des formulaires. On pouvait monter sur un train à Paris et on pouvait descendre en Inde sans qu'on nous demande quoi que ce soit. On pouvait aller aux États-Unis et avoir un travail sans passeport. Et on a oublié ça aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le travail sur les frontières. On s'est adapté en fait au fait d'avoir des passeports qui avaient été introduits en 1914 seulement en voie temporaire. Cette voie temporaire est restée en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc ces livres, c'est vraiment une mine d'informations sur comment notre monde a changé et qu'est-ce qu'il y avait de bien et qu'est-ce qu'il y avait de pas bien de cette époque. Et puis ça, cet autoportrait des Marais, je pense que c'est un des livres les pires écrits que j'ai lus de ma vie. Et c'est pour ça que je vous conseille de le lire, parce que il est incroyable. C'est un témoignage dingue de ces photographes qui a tout inventé. Et j'ai énormément appris de ces livres. Un exemple, aujourd'hui, l'évolution du numérique, on va en parler. Une des prochaines évolutions, ça sera qu'on pourra prendre des films avec des vidéos, avec notre appareil photo, avec des résolutions telles qu'on pourrait juste prendre une image de la vidéo et l'imprimer en grand. Donc, c'est les prochains appareils photo auront cette capacité. Donc, c'est génial parce qu'on peut, vraiment, on ne cadre plus, mais surtout dans certains contextes, ça peut être très utile. Marais faisait ça dans les années 20, en fait, parce que lui, il filmait. Lors des rendez-vous pour les portraits, il faisait une vidéo, en fait. Il prenait pas des photos, il faisait une vidéo, puis il développait la pellicule, et puis il choisissait les photogrammes qui lui servaient pour avoir les meilleurs portraits de la série. Donc, donc là, on parlera de ce nouveau développement. On faisait ça déjà il y a 100 ans, mais bon, c'était pas numérique, c'était en argentique. Mais aujourd'hui, personne même pense à faire ça comme ça. Et puis, j'en ai un dernier que j'ai amené moi-même, parce que vous ne l'aviez pas, et c'est normal, parce que c'est très difficile d'être aujourd'hui, en fait, parmi les différentes évolutions, il y a un énorme éparpillement des maisons d'édition avec des tirages très petits. Donc c'est très difficile d'être à jour sur ce qui se passe. Alors moi, j'adore ce travail. Parce qu'on revient un peu au photojournalisme, mais d'une façon... Ces projets s'appellent champ de bataille, en fait. Et pour moi, ça, c'est du photojournalisme. Et je vous montre une photo à l'intérieur. Il y en avait une que j'aimais beaucoup. Pas celle-là. Quelque chose comme ça. Des choses comme ça, par exemple. Ça, c'est des écrans d'iPhone, en fait, et les empreintes que nos doigts laissent sur les écrans d'iPhone. Et je trouve ce projet génial parce que c'est une façon de parler d'un élément d'actualité qui est brûlant, en fait. Notre absolue, complète alignation due à ces appareils et d'une façon très intelligente et qui laisse la place à la réflexion, en fait. Donc, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi un travail journalistique qui est très important parce qu'aujourd'hui, le photojournalisme est en train d'évoluer vers une autre façon, en fait, de montrer la réalité. Aussi parce que tout le monde aujourd'hui a un appareil photo et du coup pour se détacher du lot il faut aller au-delà, il faut imaginer quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été fait. Mais je pense que c'est une question que tu avais à me poser par rapport à ça.
Oui, bah oui, on en vient en fait justement à la question des évolutions du métier, des évolutions technologiques qui sont immenses. Donc voilà, peut-être un des aspects positifs donc de ces évolutions du fait que maintenant voilà tout le monde a un iPhone en main avec qui il peut prendre des photos d'une résolution telle qui était voilà l'apanage d'uniquement les machines professionnelles il y a encore 20 ans. Donc un des aspects positifs serait que pour les photographes, ça demande de se poser de nouvelles questions, d'être de plus en plus original, pour se démarquer justement de la photographie amateur.
Oui, sûrement. Et je pense que c'est plutôt bien en fait. Bah, déjà, c'est bien que les appareils photo, en fait, par exemple, tout le monde a un stylo, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous des écrivains. Pareil, donc tout le monde peut avoir un appareil photo, mais et peut prendre des photos extraordinaires. Mais tout le monde avec un appareil photo n'arrive pas à développer un projet, par exemple. Donc c'est le fait que les images soient plus présentes pousse les photographes à vraiment à aller au-delà, comme je disais tout à l'heure. Il faut penser les projets photographiques différemment. Parce que il faut se démarquer d'une autre façon. Mais alors, une autre chose à dire, en m'ayant invité ici, je donne une vision qui est liée à mon expérience et à la façon dont je travaille. Alors, je ne suis pas vraiment représentatif du métier du photojournalisme et je ne pense pas qu'il y ait un photographe aujourd'hui qui soit représentatif du métier, parce qu'il y a tellement de pratiques différentes que vous avez 10 photographes ici, vous aurez 10 discours complètement différents sur le métier. Pour moi, cette évolution numérique, elle est géniale parce que ça nous libère de la photo d'illustration et ça nous permet de nous concentrer sur une autre façon de faire de parler de l'actualité qui est très intéressante et tout est à découvrir en fait. Donc c'est un nouveau champ dans lequel on vient juste de rentrer et il y aura énormément de choses à dire sur ça. Et après, il y a aussi j'ai lu récemment un texte de physique en fait qui m'a beaucoup impressionné parce que il essayait d'expliquer comment en fait nous on a l'impression que la Terre est plate en fait. Nos sens nous disent que la Terre est plate. Après, on sait que la Terre est pas plate, elle est ronde. On a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, mais bon, c'est pas vrai. On sait que en fait, nous, on a l'impression que le temps s'écoule et que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Or, la physique est en train d'arriver à démontrer que passé, présent et futur, c'est tout un bloc qui existe en même temps. Et nos sens nous donnent une vision qui n'est pas réaliste, en fait, parce qu'on est limité. Et justement, comme on imagine que la Terre soit plate, on imagine que le temps... Et ça, c'est une révolution, en fait, qui affecte aussi notre façon de concevoir l'actualité. Qu'est-ce que c'est l'actualité ? Et très souvent, aujourd'hui, quand on parle d'actualité, déjà, on parle du storytelling, il faut raconter une histoire. Mais déjà, il y a une contradiction. Comment je peux parler d'actualité en racontant une histoire ? C'est pas là l'actualité, c'est plus l'actualité. Et donc, il y a une tendance d'un côté... des journaux de rendre l'actualité toujours plus présente. Par exemple, j'ai parlé avec un collègue au Monde aujourd'hui. Le Monde va ouvrir un bureau aux États-Unis dans quelques jours, en fait, juste pour être pour que leur site internet soit réveillé 24/24, parce que jusqu'à maintenant la nuit, il n'est pas actualisé. Et donc il faut vraiment que l'actualité soit chaque seconde. Et donc d'un côté, on est vers une actualité toujours plus courte, mais de l'autre côté, elle est en train d'aller découvrir qu'en fait, l'actualité qu'on pense soit actuelle, en fait, elle n'est pas comme ça, elle est à concevoir différemment. Donc ça laisse les champs à des projets vraiment innovants, en fait. Et moi, dans mon travail, quand je commence un nouveau travail, j'essaie de me dire, est-ce que cette photo a une date Alors, une règle du photojournalisme, il faut que les 5 W, non, cette action a été faite par qui, quand, où, etc. Et moi, j'essaie de me détacher de ça. Si cette photo a une date, elle est morte demain, parce que je ne pourrais plus m'en servir et elle n'a pas d'intérêt pour moi. Donc, j'essaie de ne pas dater des photographies et de faire des projets dans lesquels on peut utiliser une photo que j'ai prise aujourd'hui dans 10 ans et le sujet sera toujours d'actualité. C'est pas évident, ça ne m'arrive pas avec tous les projets, mais j'y réfléchis beaucoup en fait avant d'entamer un projet de ce type.
C'est amusant ce que tu dis parce que justement c'est un peu un des scandales récurrents de la presse en ligne. C'est par exemple le fait qu'on utilise une image d'il y a 3 ans pour parler des migrations de 2016. Et alors les gens disent mais c'est scandaleux cette image. Et donc les gens ont l'impression que c'est faux parce que ça n'est pas de la vraie actualité brûlante en image. Et il y a justement cette difficulté de se rendre compte de la longue distance en fait.
Oui, c'est sûr. Et puis il y a aujourd'hui aussi beaucoup de polémiques en fait sur le fait de trafiquer les images sur Photoshop. Donc c'est difficile de comprendre si l'image était trafiquée ou pas. Et je trouve ça très drôle en fait. Et c'est très intéressant. Et ça va amener en fait à des travaux plus personnels. Qui sont toujours, à mon avis, sont toujours du photojournalisme, mais fait d'une façon différente. Et l'actualité chaude, après, c'est autre chose. Et puis, il y a un autre métier, c'est celui du photographe qui travaille pour des agences comme l'AFP. C'est tout un autre métier. Le photographe, dans ces cas-là, il est complètement déconnecté. Il ne sait même pas en fait où ses photos vont. Il les envoie sur les réseaux et il ne sait pas où ils sont publiés. Il ne sait pas avec quel titre ces photos vont paraître, quels seront les sous-titres. Et donc, il n'a pas le même contrôle, disons. Ce type d'activité qui est incroyable aujourd'hui, moi, ça m'intéresse moins, en fait. Ce n'est pas ce que j'aime faire. Mais c'est une énorme partie du photojournalisme aussi, par exemple.
Alors, une autre chose qui a changé, c'est la multiplication des festivals de photos, des expositions de photos. Enfin, la photo, à la fois, est assez banalisée avec justement Instagram, les réseaux sociaux. Voilà, tout le monde s'autoproclame photographe et envoie des photos de ses fêtes de famille. Et en même temps, il y a aussi une plus grande visibilité institutionnelle. Voilà.
C'est comment il faut avoir plusieurs projets en même temps. Il faut aussi arriver, si on peut, à présenter son travail sous différentes formes. Donc, si on ne parle plus des magazines en particulier, il faut, tant qu'on peut, le présenter à des festivals. C'est toujours de la visibilité, à des concours et des activités de ce type. En sachant que c'est un peu une roulette parce que aujourd'hui il y a tellement de gens qui postulent à ça, on peut pas vraiment compter sur ça. Et puis, il faut aussi qu'on se rende compte que c'est réduit. Je lisais un article qui disait il y avait la liste de tous les prix photo au monde et les titres étaient incroyables. Tous les prix photo au monde, 1 million d'euros à gagner. Et j'ai dit, c'est énorme, 1 million d'euros, c'est énorme. Et puis, dans mon bureau, il y a une réalisatrice qui était en train de monter le budget pour son premier court-métrage. Et elle dit, moi, j'ai un problème parce que mon budget est à 3 millions et j'en ai trouvé que 2. Et je dis, attends, toi qui viens de commencer, tu as trouvé 2 millions d'euros pour ton film. Et là, toute la profession des photographes au monde, hein, c'est 1 million d'euros. Donc, c'est vraiment il faut prendre aussi du recul par rapport à ça. C'est vraiment tout petit. Mais il faut essayer, il faut tenter, mais pas trop. En tout cas, moi, je passe pas trop de temps parce que il faut un effort énorme pour un résultat qui est trop incertain. Après, bon, il y a toute la partie réseaux sociaux. C'est sûr qu'il faut être présent. Et l'évolution actuelle sont très intéressantes. Ce qui se passe sur Instagram, par exemple, est très intéressant parce qu'il y a des photographes qui sont plus suivis que les magazines pour lesquels ils travaillent. Donc, ça crée vraiment un retournement. Donc, les magazines, il est plutôt dans une position de faiblesse par rapport aux photographes parce qu'il est en autorité. Donc, ça affaiblit aussi certains magazines, en fait. Ça en a fait naître de nouveau. Donc, c'est vraiment à suivre. C'est passionnant aussi, Instagram.
Est-ce que, pour conclure, tu veux dire un mot sur tes prochains projets, tes projets en cours ?
Alors, prochain projet, déjà cet été, je vais terminer, si tout se passe bien, les projets sur les frontières. Et puis, j'ai commencé un nouveau projet sur les représentations de la guerre en Europe, donc toutes les reconstitutions qu'on est en train de faire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça aussi, c'est un projet sur plusieurs mois, quelques années. Là, depuis quelques mois, je suis installé aux Pays-Bas. Et j'ai commencé aussi un projet sur les Pays-Bas. Donc, plusieurs projets comme souvent, des différentes durées, en fait, comme je disais tout à l'heure.
Merci. Est-ce qu'on va peut-être prendre quelques questions ? Si quelqu'un a des questions, je vais faire passer mon micro pour qu'on vous entende.
Oui, bonsoir à tous. Voilà, donc j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. J'aimerais vous poser une question, monsieur, puisque nous vivons dans un monde qui est très troublant, où je pense que la conception de l'actualité est constamment modifiée, y compris par certains philosophes, ou soi-disant philosophes, y compris par la caricature, y compris aussi par l'évolution du multimédia, y compris aussi par, je dirais, les différentes formes que peuvent prendre l'information aujourd'hui sur la toile. Donc, j'aimerais vous poser la question toute simple, parce que pour moi, j'estime que la photo développe l'imaginaire. De tout temps, la photo, comme vous avez montré tout à l'heure, développe l'imaginaire. Quand vous regardez une photo, vous pouvez penser à ce que vous voulez. Vous pouvez développer votre imaginaire, partir dans différentes directions. Mais une photo reste une photo. Mais aujourd'hui, dans le sens que nous avons beaucoup de supports qui sont là pour un peu transformer, modifier nos opinions, où est encore la place du concret qu'est la photo, qui de tout temps a toujours fait évoluer notre imaginaire dans ce monde-là? Comment faites-vous pour résister dans ce monde-là où la caricature, comme on le voit souvent, a tendance à bouleverser les consciences? Merci.
Merci de la question. J'ai parlé il y a quelques temps avec Gérard Uferas, un photographe français assez connu, qui me disait, tu sais Valerio, quand j'étais jeune, en fait, c'était assez simple de se faire une idée du monde, parce qu'il y avait Libération, il y avait Les Figaro, il y avait Le Monde, tu lisais ça, et puis tu prenais position par rapport à ça. Donc tu avais 3 ou 4 sources, et finalement, c'était assez simple. Aujourd'hui, il me disait, je ne sais plus quoi croire, en fait. Il y a tellement de... Alors, qu'est-ce qui est mieux? Parce que c'est vrai, à l'époque, c'était plus simple. Mais aujourd'hui, la réalité est complexe. Donc, on a 2 choix face à cette situation. Soit on se laisse, disons, manger par l'avalanche. Soit on a une attitude plus active, en fait, proactive. C'est très difficile aujourd'hui de se faire une opinion, en fait. Et c'est très difficile de trouver des éléments et des choses dans lesquelles croire. Et c'est pas mal, en fait, parce que ça nous pousse à éviter la simplicité, à éviter ce qui est simple. Et en tout cas, moi, je les conçois comme ça. Donc, moi, j'aime cette période parce que on peut raconter beaucoup de choses. Ce qui est très important, c'est qu'il faut être fidèle à soi-même. Il faut se donner un cadre qui soit... et le respecter. Un exemple, par exemple. Mes photos des frontières, je n'enlève pas un détail de la photo. S'il y a un câble électrique, je ne vais pas en enlever. C'est un projet documentaire. Et moi-même, je me porte garant du fait que ces photos que je montre, c'est ce que j'ai vu, en fait. Ce qu'il y avait là, je n'ai pas modifié la photo. Mais si on me demande un portrait d'un homme politique. Dans le domaine des portraits, c'est toute une autre histoire. Je peux altérer les couleurs, c'est tout à fait conçu. S'il y a une prise électrique par terre qui me gêne, je peux l'enlever, c'est pas grave, c'est accepté dans la profession. Ça ne veut pas dire modifier la réalité. J'aurais pu me déplacer un peu, c'est pas grave. C'est, comme quand j'avais pas le temps, je me suis pas déplacé. J'aurais pu enlever un papier par terre, mais bon, là, le ministre avait 2 secondes. Donc c'est toute une autre approche. Et c'est important de garder des règles, parce que c'est ça qui nous donne aussi notre... c'est ça que, grâce à ça, les gens nous font confiance. Un autre exemple, sur les photos des frontières, j'ai eu de temps en temps quelques emails des gens qui me disent « Moi, j'étais là-bas, mais je n'ai pas vu ce que vous avez vu. Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça ?» et si je n'avais pas gardé tous les endroits, les emplacements exacts, en fait, d'où j'ai pris les photos, j'aurais été un peu mis en difficulté. Donc, il faut être... Et si j'avais triché, on aurait vu qu'en fait, c'était pas vrai. Donc, c'est très important de soi-même, avant que les autres nous demandent, être fidèle à ce qu'on croit, et après, continuer dans sa voie, parce que c'est grâce à ça qu'on reste dans le long terme. Sinon, on peut faire un projet extraordinaire, ça peut marcher très bien, mais après, on ne dure pas. Un autre exemple, je suis représenté en France par un collectif qui s'appelle Insulcas, et ça regroupe des photographes qui viennent de débuter et des photographes plus expérimentés. Il y en a un qui a pris une photo d'un baiser, peut-être vous avez vu cette photo, le baiser de la République. Après les attentats, il y a eu un couple... Non, pardon, c'était deux policiers qui se serraient et un policier qui pleurait sur l'épaule d'un autre. Et c'était une photo touchante, était publiée plusieurs fois. Alors, le photographe s'est trompé dans la date, en fait, quand il a fait la légende, d'un jour ou 2 jours. Et cette histoire est sortie... Bon, lui, il venait de commencer, il ne donnait pas beaucoup d'importance à ça. Cette histoire est sortie un peu après, et ça décrédibilisait tout le travail, en fait, qu'il avait fait, le fait que cette photo ait vraiment existé ou pas. Et donc ça, c'est très important. Il faut faire très, très gaffe à ça, parce que c'est notre crédibilité, en fait, de photographe en tant que photographe, mais aussi pour la profession. Voilà, oui, pour synthétiser. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça, mais... Voilà, d'ailleurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nos photos peuvent être volées et on perd complètement le contrôle. Et moi, j'ai vu la réaction du photographe après cette parution. Il n'était pas très content.
Une autre question ?
Soyez pas timide, hein, vous pouvez dire.
Oui.
Merci. Concernant l'article scientifique qui parlait de nos sens, qui nous donne une vision qui n'est pas réaliste, est-ce que vous vous rappelez du titre de l'article ou,
Oui, je peux vous donner. En fait, c'est un livre d'un physicien italien qui a écrit un livre. Donc, je vous donnerai les titres du livre, mais c'est un livre en italien. Je ne pense pas qu'il soit traduit. Mais en fait, ce n'était pas la première fois que je voyais ça. Il y a 2 ans, j'étais à une conférence juste ici, en bas, au Centre Pompidou, et il y avait un physicien qui disait exactement la même chose. Donc, je peux vous retrouver cet article, mais si vous parlez à n'importe quel physicien, il va vous dire la même chose, en fait. C'est pas quelque chose qui vient que d'une personne, en fait.
Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions... Ah, si.
Merci. En fait, je voulais savoir si vous avez des conseils à donner pour les jeunes photographes qui voudraient se lancer dans le métier. Donc, qu'est-ce que vous leur direz ? Et aussi une question plus technique, je voulais savoir votre avis sur la photo de la pratique argentique, si elle a toujours une place dans le photojournalisme, ou alors maintenant c'est plus devenu quelque chose d'artistique, ou alors enfin, est-ce que vous la pratiquez, enfin votre avis là-dessus.
Oui. Alors la première question est difficile, les conseils, il y en a beaucoup, mais en fait il n'y en a aucun. Donc Et j'ai dit il n'y en a aucun parce que le parcours de chaque photographe est tellement varié que je peux vous dire quelque chose, mais il s'applique à moi, mais il ne s'appliquera pas à vous. Un conseil que je peux donner, après je réponds à l'autre question, c'est quand on est photographe, on est dans une, au début surtout, mais même tout le temps, on est dans une situation un peu faible parce qu'on est celui qui rencontre une personne et montre des images. Donc on fait toujours un examen. On rencontre un iconographe, ça peut être un iconographe, un curateur. On rencontre tellement de profils différents, mais la scène est toujours la même. On est assis à une table, on a 20 photos, et puis on montre 20 photos, et on parle et on raconte notre projet. C'est comme ça qu'on arrive à faire connaître notre métier. C'est bien. Parce que ça serait beaucoup plus compliqué si on était écrivain. Il faut que la personne lise le livre. Alors qu'à 5 minutes, je peux montrer de quoi, qu'est-ce que je fais. C'est pas bien parce que bon, on est toujours en position, toujours la même chose. Donc, quand on cherche un travail, on passe des entretiens, puis on est embauché. Un photographe, il doit se faire embaucher un nombre incalculable de fois, parce qu'il faut qu'il arrive à convaincre plein de personnes à publier. Alors, quand on fait ce type de rencontres, on a un retour. Et ces retours peuvent nous affecter, parce qu'ils peuvent être négatifs aussi. Et alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir au tout début, fait une lecture des portfolios en Espagne où il y avait la crème des lecteurs de portfolios mondiaux. Et moi, je venais de commencer. Donc, j'étais un peu mal à l'aise. Et puis, j'avais un projet sur les parcs des loisirs qu'aujourd'hui, j'ai presque honte de montrer. Donc, je montre ces photos et il y a un curateur qui voit une photo et qui me dit « Ces photos, vraiment, mais je ne comprends pas pourquoi tu l'as prise. Moi, ça ne me dit vraiment rien. Ton projet, il n'est pas super, mais en plus, ces photos-là, je ne comprends pas. » Et c'est les critiques pires parce que ce n'est pas constructif. Et donc, moi, j'ai dit, bon, OK. L'étude de portfolio après, montre le truc. Un autre grosse... Regarde la photo, dit ça, c'est un chef-d'œuvre. Attends, mais cette photo-là, elle est un chef-d'œuvre. Tu devrais vraiment faire, parce que je suis vraiment... Et la même photo, deux personnes l'avaient conçue de façon complètement différente. Et ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'on a vu le même film, on a les mêmes références littéraires. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles une personne aime ou n'aime pas une photo. Donc, les conseils que je te donne, c'est... En fait, il faut se détacher de son travail photographique. Donc, les gens, ils ne te critiquent pas toi, mais ils critiquent une image. Et cette image, il faut essayer de la regarder comme si elle ne t'appartenait pas, en fait. Un. Deux, vraiment, ne te laisse pas abattre par des commentaires négatifs. Si la personne que tu en passes, quelqu'un de bien, te fera un commentaire constructif. Mais s'il te fait un commentaire qui détruit seulement, n'y passe pas trop de temps. Parce que tu en auras, c'est inévitable, surtout au début. Mais il faut juste continuer et les montrer. En fait, c'est une question des statistiques. Le plus tu montreras ton travail, le plus tu auras des chances de trouver quelqu'un qui l'aime, tout simplement. Donc, démultiplie au maximum toutes les opportunités pour faire ça. Et l'autre question, par rapport à l'argentique, moi j'adore l'argentique, je travaille beaucoup en argentique. Donc, bien sûr, l'argentique a toute sa place. Les projets des frontières sont faits tout en argentique. Et donc, je travaille tant en numérique qu'en argentique. Chaque projet, il a un sens. Et avant de commencer un projet, j'essaie de comprendre est-ce que ça a un sens de le faire en argentique, avec quel format, avec quel appareil photo. Est-ce que j'utilise une chambre, est-ce que j'utilise un moyen format. Si j'utilise du 24-36, je fais ça en numérique parce que j'estime que, pour ce qui me concerne, ça n'est pas très intéressant de faire du 24-36 en argentique. Mais si je dois passer à des formats plus grands de pellicules, oui, ça a toute la place. Il y a plein de photographes qui s'en servent. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment un retour de ça. Donc, comme les capteurs numériques n'ont pas encore atteint la taille de certains négatifs de certains appareils, l'argentique a encore de longues années. Après, on s'en fout, en fait, parce que même mon projet en argentique, après, je numérise les négatifs. et donc le film devient un fichier digital, juste comme une photo argentique. Donc la personne à laquelle tu montres la photo, elle s'en fout en fait, si tu fais ça en numérique en argentique. Trouve un appareil avec lequel tu es à l'aise, ton objectif, ton appareil, et puis fonce avec ça, n'essaie pas trop de tester autre chose. Si tu sens que ça ne va pas, reste avec ça, parce que c'est en fait c'est toi, c'est le rapport entre toi et l'appareil photo qui concerne pas les autres en fait.
Alors on va s'arrêter là.
Oui, excusez-moi, mais j'aime bien le débat, c'est pour ça en fait.
Allez-y.
Voilà, ce que je voudrais vous poser comme question, elle est purement intellectuelle, philosophique. Il y a quelques siècles, je pourrais prendre la photo de l'image de la Joconde, qui pour moi exprimait beaucoup de choses. À l'époque, des grands philosophes, des grands peintres, on avait le pinceau. Aujourd'hui, l'évolution du multimédia, avec la photo, le numérique, je pense à remplacer le pinceau. Est-ce que vous pensez que la photo, aujourd'hui, de façon contemporaine, justifie cette incapacité de notre monde à pouvoir dessiner, à nous amener dans un imaginaire beaucoup plus important au niveau artistique, intellectuel et philosophique qu'il y a 200, 300 ans, des gens comme les grands peintres le faisaient autrefois. Car j'ai l'impression que aujourd'hui, à notre époque contemporaine, la photo ne nous permet pas de nous plonger dans une dimension beaucoup plus importante, intellectuellement parlant, qu'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans.
C'est une bonne question. La peinture s'est détachée de la représentation de la réalité aussi à cause de la photographie, en fait. Quand on a su reproduire le réel avec des images, les peintres se sont affranchis, en fait, de la représentation de la réalité et ont expérimenté des formes nouvelles de représentation. Aujourd'hui, en faisant un énorme saut, parce que c'est une centaine, on peut dire que comme l'image est tellement présente, et certains lieux, événements peuvent être couverts par n'importe qui avec son appareil photo, la photographie aussi peut s'affranchir de cette façon de représenter la réalité en explorant des nouvelles dimensions. Et ça arrive aujourd'hui en fait. C'était pas comme ça il y a 20 ans. Et ça sera pas la même chose dans 20 ans. Parce que c'est pas la façon, c'est pas tellement l'évolution, c'est pas l'effet que l'appareil devient d'argentique à numérique. Ça, c'était un changement très grand si on regarde son ensemble. Ce qui a vraiment changé, c'est que avec nos appareils photo, la photo elle est partout en fait. Donc moi je peux consommer de la photo depuis mon portable. C'est ça le vrai changement. C'est pas important si la photo est faite en argentique ou en numérique. Et donc le fait qu'on voit de l'image différemment, ça nous ouvre un champ énorme. Exemple, ça nous permet de faire des projets photographiques où on ne prend pas de photos. Par exemple, on peut prendre juste des photos disponibles sur le web et composer donc une réflexion à partir d'images déjà existantes. C'est extraordinaire. J'ai fait un projet photographique. Ah oui, voilà. Ouais. Ça, c'est un autre projet que j'ai réalisé, complètement différent. J'ai pas pris aucune des photos. C'est une superposition de plusieurs dizaines d'images d'un leader politique italien qui s'appelle Silvio Berlusconi. Et j'ai fait ce projet pour parler d'un fait d'actualité, en fait. On avait découvert que la publicité modifie physiquement notre cerveau. Et en Italie, une femme de ménage avait commencé à avoir un problème de dégénérescence cérébrale et elle était incapable de reconnaître ses proches, en fait. Mais elle reconnaissait Silvio Berlusconi. C'était la seule personne qu'elle pouvait reconnaître. Et cette patiente était étudiée par des neurologues, et ils sont arrivés à la conclusion que Berlusconi avait tellement bombardé les Italiens d'images de soi-même, et tellement fait des campagnes publicitaires, et ça c'est vrai pour tous les leaders de la planète en fait, que notre cerveau était modifié physiquement. C'était la première fois qu'on pouvait prouver que la publicité modifie physiquement notre cerveau. Donc j'ai fait ces projets, et donc j'ai utilisé l'excuse du médium photographique pour parler en fait de cette actualité, mais sans prendre des photos, juste en récupérant des photos disponibles sur Internet et après en les superposant pour donner une espèce de vision d'artiste de cette image subliminale qu'on a dans notre cerveau. Alors, est-ce que c'est du photojournalisme ? Ben, on s'en fout, en fait. Si on parle d'un phénomène d'actualité, oui, on peut dire que c'est du photojournalisme. Mais c'est juste, en fait, le début d'une nouvelle façon de concevoir l'actualité qui laisse la place à l'imaginaire de la personne qui regarde l'image.
Alors, merci, on va s'arrêter là, mais merci beaucoup pour vos questions. Alors, on se retrouve le 11 mai pour une rencontre sur le journalisme sportif. Je vous remercie beaucoup, bonne soirée.